Bien chers auditeurs de Radio Espérance, pour vous aider à entrer dans l'année de la foi, il m'a paru important de vous présenter la conférence que le cardinal Joseph Ratzinger était venu donner à Paris et à Lyon les 15 et 16 janvier 1983, La transmission de la foi et les sources de la foi. Cette conférence avait été demandée au cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, par les cardinaux Lustiger et de Courtray. Lors de sa venue en France en septembre 2008, Benoît XVI a rappelé explicitement cette conférence sur la catéchèse dans son homélie à Notre-Dame de Paris. À Lourdes, il avait dit à nos évêques « La catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu. » Cette phrase avait déjà été dite par le cardinal Ratzinger lors de sa conférence en 1983 à Paris et à Lyon. Nous vivons des temps difficiles, que Benoît XVI a qualifiés de tempête. Mais ces temps sont aussi des temps de grâce, ne l'oublions jamais. Nous ne voulons pas entretenir la nostalgie d'un passé en vous présentant cette conférence, mais dans l'esprit de Benoît XVI, nous voulons puiser aux sources vives de la tradition vivante de l'Église pour vivre l'aujourd'hui de notre Église et affronter, en communion profonde avec notre pape et le Collège des évêques, les défis auxquels nous sommes affrontés pour permettre l'unité de l'Église dans la vérité et l'amour et pour permettre le retour de Dieu dans le cœur des hommes. Comprenons-le en profondeur au début de nos réflexions. Cette conférence du cardinal Joseph Ratzinger sur la transmission de la foi touche au cœur de la mission de l'Église. Si la foi n'était plus transmise en effet, comment l'Europe pourrait-elle retrouver la fidélité à ses racines chrétiennes? Cette foi, cependant, doit s'enraciner dans la tradition apostolique dont la source est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Comme le rappellera l'analyse du cardinal Joseph Ratzinger, la catéchèse a traversé une grave crise qui découle de la crise exégétique et de la crise théologique. Si le mot « crise » a été utilisé par le préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, qui, en tant que théologien, connaît le poids des mots, c'est qu'il correspond, hélas, à ce que l'Église a vécu après le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II n'est pas responsable de la crise, comme nous le verrons en citant Jean-Paul II. Le catéchisme de l'Église catholique, ne l'oublions pas, est l'un des plus beaux fruits de ce concile. Puissent tous les acteurs de la catéchèse transmettre fidèlement ce catéchisme que Radio Espérance commentera fidèlement tout au long de l'année de la foi. Ce que signifie être chrétien. Nous espérons que la présentation de cette conférence permettra aux auditeurs de Radio Espérance de mieux comprendre la nature de la transmission de la foi et de mieux comprendre et faire comprendre ce que signifie être chrétien. Être chrétien, c'est d'abord suivre le Christ. Mais que signifie suivre le Christ? C'est être son disciple, avoir foi en lui, accueillir sa parole, vivre de sa vie, l'imiter dans sa vie morale et prier avec lui et avec ses frères et sœurs chrétiens, un seul et même Père. Suivre le Christ, c'est aussi le rencontrer dans et par son Église. C'est elle et elle seule qui a reçu de Jésus la mission d'annoncer l'Évangile, de sanctifier par les sacrements et de faire garder ses commandements. La transmission de la foi est donc l'une des missions les plus importantes et des plus urgentes de l'Église. Elle ne consiste pas en la transmission d'un discours théologique, mais en la transmission du trésor que Jésus a confié à son Église. Ce trésor, c'est lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous prendrons le plan que nous avions choisi dans la session que nous avions organisée sur la transmission de la foi en juillet 2010, session que vous pouvez retrouver sur notre site famillemissionnairedenotredame.org, sur Internet. Et cette session est enrichie de tous les témoignages des foyers qui ont participé à cette session. Donc vous pouvez revoir les vidéos et revoir aussi les enregistrements audio. Je profite de ce premier petit enregistrement pour remercier le directeur de Radio Espérance, M. Perchaud, qui m'a demandé de collaborer avec Radio Espérance pour préparer cette année de la foi et ensuite pour vivre cette année de la foi. Et vraiment, je suis émerveillé par le programme que M. Perchaud et ses collaborateurs ont mis au point pour vivre cette année de la foi exactement comme le veut Benoît XVI. Oui, heureux êtes-vous, auditeurs de Radio Espérance, d'avoir de telles émissions qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux de l'année de la foi. Notre fondateur, qui est décédé le 2 avril 2006, avait bien compris que ce qui était le plus important de nos jours, c'était de garder la foi, de l'approfondir et de la transmettre intégralement et fidèlement. Le plan de la conférence du cardinal Joseph Ratzinger, c'est ce que nous voudrions d'abord vous donner au début de nos approfondissements. La conférence du cardinal Joseph Ratzinger, je le rappelle, en 1983 à Lyon et à Paris, comprenait deux parties, deux chapitres importants. Le premier chapitre concerne la crise de la catéchèse et le problème des sources. Le deuxième chapitre est un développement pour donner des grandes lignes en vue de surmonter la crise. Le premier chapitre, la crise de la catéchèse et le problème des sources. Le premier chapitre est difficile à lire et à comprendre pour un non-initié. Le temps compté d'une conférence ne permettait pas au cardinal Joseph Ratzinger, qui était, rappelons-le, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ne lui permettait pas de longs développements. Il devait aller à l'essentiel, parce qu'il avait des choses importantes à dire aux responsables et aux acteurs de la catéchèse en France. Il voulait faire comprendre que la catéchèse n'est pas la transmission de théologie, d'exégèse ou d'idées à la mode, mais la transmission de la foi de l'Église. Je le répète, la catéchèse est la transmission de la foi de l'Église, interprétée avec autorité par la tradition et le magistère. La catéchèse ne consiste pas à lire et interpréter par soi-même l'Écriture sainte, car ce serait courir le risque du subjectivisme. La catéchèse ne serait plus transmission de la foi de l'Église, mais expérience personnelle, expérience limitée et hasardeuse de son petit groupe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cardinal Joseph Ratzinger. Le patriarche Kirill de Rome, de Moscou, a rappelé l'importance de la tradition, règle de la foi. Si on ne se réfère ni à la tradition, ni au magistère, qui sera donc Jésus pour l'enfant et pour le catéchiste? Rappelons-nous la question que Jésus pose à ses disciples dans le chapitre 16 de saint Matthieu ou le chapitre 8 de saint Marc. Qui suis-je pour les gens? Aucun contemporain de Jésus n'avait vraiment compris le mystère de Jésus. Pierre seul, éclairé par Dieu le Père, va confesser ce mystère. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comprenons l'importance de ce qu'a affirmé le cardinal Joseph Ratzinger dans ce premier chapitre, pour que la catéchèse transmette la vraie foi sur le mystère de Dieu, le mystère du Christ, le mystère de l'homme, le mystère de l'Église et le mystère de la création et des fins dernières. L'Écriture sainte doit être lue dans la tradition et avec le magistère. Le cardinal Joseph Ratzinger posait cette question fondamentale. Comment l'eau des sources peut-elle être conservée pure? Et il soulignait le danger de l'emprisonnement dans l'étroit de nos propres expériences. La foi ne se découvre pas au travers de notre pauvre expérience humaine, elle se reçoit de Dieu par l'Église dans le fleuve vivant qu'est la tradition. Ne prenons pas peur devant la complexité de la conférence du cardinal Joseph Ratzinger. Je répète, vous pouvez trouver le texte de cette conférence sur notre site « Famille missionnaire de Notre-Dame » et en allant rechercher dans ce site les actes de la session du juillet 2010 sur la transmission de la foi. Le cardinal Joseph Ratzinger s'adressait, ne l'oublions pas, au responsable de la catéchèse. Il n'avait pas à prendre le temps d'expliquer des mots connus par ses responsables. Il voulait surtout, dans cette première partie, rappeler à la suite de la constitution dogmatique du Concile Vatican II Dei Verbum que la parole de Dieu, transmise dans l'Écriture sainte, ne peut pas être interprétée sans référence au Père de l'Église et aux saints, sans être guidée par le magistère du pape et du collège des évêques. Donc, nous reprendrons d'une manière plus analytique ce que nous vous présentons aujourd'hui, d'une manière plus synthétique, afin de vous donner les grandes lignes de cette conférence. Donc, le pape Benoît XVI, actuel, donc, lorsqu'il était à Lyon et à Paris, était cardinal Joseph Ratzinger. Donc le cardinal Joseph Ratzinger a voulu aller tout de suite vers le lieu important de la crise. Ce lieu important, c'est l'interprétation de l'Écriture sainte. L'interprétation de l'Écriture sainte selon la foi de l'Église, c'est de l'interpréter dans la tradition et avec le magistère de l'Église. Poursuivons nos approfondissements. Le deuxième chapitre de la conférence du cardinal Joseph Ratzinger s'intitule « Pour surmonter la crise » et la première partie de ce deuxième chapitre « Qu'est-ce que fait la foi ?» Le deuxième chapitre de la conférence du cardinal Ratzinger « Transmission de la foi » est divisé en trois parties importantes. Le titre de la première partie est « Qu'est-ce que la foi ?» Cette question est fondamentale. La foi, transmise dans la catéchèse, n'est pas seulement l'expérience personnelle du sujet qui croit. Elle n'est pas seulement un ensemble de vérités révélées. Elle est aussi relation vivante avec Dieu Trinité, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. On ne transmet pas sa foi personnelle, c'est bien évident. Saint Thomas appelait cette foi personnelle la fides quoi, c'est-à-dire la foi, la vertu théologale de foi par laquelle je crois. Mais on transmet la foi objective. Foi objective que saint Thomas appelait fides quae, la foi qui est crue. Le cardinal Joseph Ratzinger, s'appuyant sur le chapitre 17 de saint Jean, disait « La foi est une connaissance. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. » Jean 17, 3. Cette connaissance est connaissance de la vérité et de l'amour qu'est Dieu. Le cardinal Joseph Ratzinger faisait aussi remarquer que lorsqu'un baptisé dit « je crois », son « je » personnel isolé n'est pas de fait le sujet de la foi qu'il proclame, mais le vrai sujet de sa foi est le « je » de l'Église. Je crois que c'est très important de bien le souligner et de bien le comprendre. Lorsque je dis « je crois », ce n'est pas mon ego, mon moi qui croit, c'est l'Église. Je participe à la foi de l'Église, je proclame la foi de l'Église. La catéchèse n'est pas la transmission des diverses manières de croire des baptisés, mais la transmission de l'unique foi de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Le cardinal Ratzinger avait également souligné qu'il n'y avait pas de foi sans Église. Le deuxième chapitre de cette deuxième partie, pour surmonter la crise, qu'est-ce que les sources ? La deuxième partie du deuxième chapitre porte ce titre, « Qu'est-ce que les sources ?» Nous approfondirons davantage dans la suite de ces émissions la pensée du brillant théologien Joseph Ratzinger sur ce sujet très difficile. Il faut bien pourtant que je vous l'explique. L'historien profane recherche, dans un esprit d'objectivité, les sources des écrits des auteurs qu'il étudie. Il est convaincu, en effet, qu'il existe un développement de la pensée, de la science, de la culture. Des exégètes ont voulu imiter le laborieux travail des historiens. En cela, il n'y avait rien de mal. L'Écriture sainte, en effet, est écrite par des auteurs humains. Elle peut donc être étudiée avec les mêmes méthodes qui sont utilisées en histoire. L'Église ne condamne pas l'exégèse historico-critique. Benoît XVI, aujourd'hui, ne la condamne pas. Et nous voyons très bien dans les deux tomes qui sont déjà sortis sur la vie de Jésus, Jésus de Nazareth, eh bien que Benoît XVI prend au sérieux l'exégèse historico-critique. Mais la Bible n'est pas qu'un livre humain. Elle est inspirée par Dieu. Si l'historien qui étudie la Bible ne croit pas en l'intervention de Dieu en notre histoire humaine, les sources de l'Écriture ne seront pour lui que des sources humaines rationnelles. Voilà ce que Joseph Ratzinger a voulu nous faire comprendre, voilà ce que nous devons comprendre en profondeur. Le cardinal Joseph Ratzinger nous a aidés à élever nos esprits et nos cœurs vers la source de la révélation qui est Dieu lui-même. La révélation n'est pas d'abord un livre contenant des écrits du passé et un ensemble de vérités révélées, mais elle est la communication de notre Dieu vivant dans le Christ par l'Esprit Saint. Par la révélation, nous dit Joseph Ratzinger, le je divin rencontre le tu humain dans le nous de l'Église. tirons la conséquence de cette affirmation fondamentale. La catéchèse ne consiste pas seulement à transmettre des vérités, mais à transmettre Dieu par Jésus dans l'Esprit Saint. Elle doit donc permettre la rencontre du « je » divin avec un « tu » humain dans le « nous » de l'Église. Attention cependant à ne pas mal interpréter la pensée riche et nuancée du cardinal Ratzinger. La catéchèse est, c'est évident, transmission d'un contenu, donc de vérité révélée, mais elle n'est pas que cela. Elle doit permettre la rencontre avec Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, dans l'Esprit Saint. Continuons notre approfondissement. Nous sommes dans le deuxième chapitre pour surmonter la crise et la troisième partie de ce deuxième chapitre, la structure de la catéchèse. La structure de la catéchèse est le titre de la troisième partie du deuxième chapitre de la conférence de Joseph Ratzinger sur la transmission de la foi. Conférence, rappelons-le, donnée à Lyon et à Paris en 1983. Le cardinal Joseph Ratzinger jugeait cette dernière partie très importante. Il l'avait subdivisée en trois sous-parties. A, les quatre composantes maîtresses. B, réflexion sur deux problèmes de contenu. C, de la structure formelle de la catéchèse. Première sous-partie, les quatre composantes maîtresses. Dans la première sous-partie, le cardinal Joseph Ratzinger, dans une synthèse claire, précise et à la portée de tous, présente les quatre composantes maîtresses du catéchisme, le symbole des apôtres, les sacrements, le décalogue, c'est-à-dire les dix commandements, la prière du Seigneur, c'est-à-dire le Notre Père. Cette structure simple remonte, dit le cardinal Joseph Ratzinger, aux origines de l'Église. Luther l'a utilisée aussi naturellement que les auteurs du catéchisme du Concile de Trente. Les 12 articles du Credo révèlent ce que le chrétien doit croire. Les 7 sacrements révèlent ce que le chrétien doit vivre. Les 10 commandements révèlent ce que le chrétien doit faire. Le Notre Père révèle enfin ce qu'il doit espérer. Le cardinal Joseph Ratzinger disait avec humour et fermeté: on ne voit pas pourquoi on croit devoir aujourd'hui abandonner à tout prix cette structure simple, aussi juste théologiquement que pédagogiquement. Au premier temps du nouveau mouvement catéchétique, cette structure simple passait pour naïve. Nous devons être convaincus, avec le cardinal Ratzinger, que la transmission de la foi consiste en la transmission fidèle des 12 articles du Credo, des 7 sacrements, des 10 commandements et de la prière du Notre Père. Tel est le contenu dont parlait Benoît XVI aux évêques de France à Lourdes. L'essentiel du contenu de la catéchèse permet aux baptisés de croire en Jésus et en tout ce qu'il nous a révélé, les 12 articles du Credo, de vivre dès cette terre la vraie vie, la participation à la vie éternelle par les 7 sacrements, d'agir librement et dignement selon Dieu par les 10 commandements, de vivre dans l'union intime avec Dieu et dans l'unité avec les autres baptisés grâce à la prière du Notre Père. Le B, réflexion sur deux problèmes de contenu. La deuxième sous-partie porte sur deux questions très menacées en notre temps, disait le cardinal Ratzinger: la foi en Dieu créateur et le décalogue. Nous en reparlerons dans les prochaines émissions. La troisième sous-partie de la structure formelle de la catéchèse, cette troisième sous-partie plus difficile est particulièrement importante pour surmonter la crise de la catéchèse liée à la crise de la théologie et à la crise de l'exégèse. Elle est donc particulièrement importante pour réaliser ce que Benoît XVI aujourd'hui veut par cette année de la foi. Pour le cardinal Joseph Ratzinger, la tradition n'est pas l'ennemi, mais bien le garant de la fidélité à la Bible. La catéchèse ne peut donc pas transmettre une interprétation de la Bible en contradiction avec la tradition. La modernité et la mode ne peuvent pas être les critères de la catéchèse. La crise de la catéchèse pour Joseph Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI, ne sera surmontée que par la redécouverte du rôle essentiel et fondamental de la tradition. Le dernier développement de la conférence du cardinal Ratzinger porte sur les rapports entre méthode et contenu de la catéchèse. Ce dernier développement est à la portée de tous parce qu'il est clair, précis et percutant. Le catéchiste doit savoir, c'est évident, s'adapter aux conditions de son catéchisé comme Jésus s'adaptait à ses auditeurs. L'un a besoin de lait, l'autre a besoin de beefsteak. Mais le catéchiste ne saura s'adapter que s'il vit de la foi, s'il médite et assimile son contenu, et s'il ne perd jamais de vue les quatre parties du catéchisme qu'il doit absolument transmettre, et nous les rappelons, les 12 articles du Credo, les 7 sacrements, les 10 commandements, et la prière du Notre Père. En ce temps où beaucoup revendiquent leur liberté contre le soi-disant autoritarisme romain, citons cette phrase du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. « L'étonnant pour nous, disait-il, est que le catéchisme romain, c'est-à-dire le catéchisme du Concile de Trente, ait laissé aux catéchistes beaucoup plus de liberté que ne le fait généralement la catéchétique actuelle. La conclusion de la conférence est limpide. Il est urgent de savoir distinguer le contenu de la foi à transmettre et les commentaires. Il faut oser présenter le catéchisme comme un catéchisme. Que cela signifie-t-il dans la bouche du cardinal Ratzinger? Tout simplement ceci. Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi invitait les baptisés français et les responsables de la catéchèse à oser revenir au catéchisme. Depuis cette conférence de 1983, ont été promulgués le catéchisme de l'Église de France, le catéchisme de l'Église catholique et le compendium. Ces livres de base sont-ils vraiment aujourd'hui les fondements de notre catéchèse? La conclusion du cardinal Joseph Ratzinger révèle le but de la catéchèse. Elle vient de l'amour de Dieu, elle conduit à l'amour de Dieu. Le premier et parfait catéchiste, en effet, est Jésus. Il nous est envoyé par l'amour de Dieu son Père pour ses enfants, et il veut nous conduire à l'amour éternel dans la vie éternelle, vie d'amour dans la vérité et la liberté des enfants de Dieu. Cette conférence est-elle toujours d'actualité? Concerne-t-elle la France? Notre pape Benoît XVI, lors de son voyage apostolique en France en 2008, a fait deux allusions à cette conférence, comme nous l'avons dit, lors de son homélie à Notre-Dame de Paris en présence des prêtres et des religieux, et au cours de son allocution à nos évêques à Lourdes. Il la considère donc toujours actuelle et particulièrement adaptée à la situation de la France. De la crise au renouveau, en vue du triomphe du cœur immaculé de Marie. La présentation de la conférence du cardinal Ratzinger veut vous aider à mieux comprendre l'action des papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Ayons confiance au magistère de l'Église par lequel Jésus nous éclaire et nous guide. Que les temps de tempête que nous vivons ne nous fassent pas douter de l'Église. Benoît XVI à Fatima, les 12 et 13 mai 2010, a invité l'Église universelle à demeurer dans l'espérance. Il a consacré les prêtres du monde entier au cœur immaculé de Marie et a dit son grand désir de voir hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. À la fin de sa rencontre inoubliable avec 15 000 prêtres du monde entier, en la solennité du Sacré-Cœur, le 11 juin 2010, notre Saint-Père a renouvelé l'acte de consécration des prêtres au cœur immaculé de Marie. Imitons Benoît XVI et confions-nous au cœur immaculé de Marie, que nous aimons vénérer sous le titre de Notre-Dame des Neiges, qu'elle nous guide et nous inspire en notre vie et en notre mission. Le renouveau est en train de naître. Les tempêtes n'empêcheront pas ce renouveau que Jean XXIII désirait ardemment au moment où il convoquait le Concile Vatican II. Mais le renouveau ne viendra que par la fidélité à la transmission de la foi dans ses quatre composantes essentielles. Vous comprenez alors l'importance qu'attache notre pape Benoît XVI à cette année de la foi qui va s'ouvrir le 11 octobre prochain. La crise de la catéchèse et le problème des sources. Dans nos 5 premières émissions, nous avons présenté d'une manière synthétique la conférence du cardinal Ratzinger sur la transmission de la foi. Nous avons ainsi déjà mieux compris ce que Benoît XVI veut signifier lorsqu'il parle du contenu de la foi que nous devons transmettre dans la catéchèse. Abordons à présent un sujet particulièrement délicat que le cardinal Joseph Ratzinger a courageusement traité au cours de sa conférence à Lyon et à Paris, la crise de la catéchèse qui découle des crises de l'exégèse et de la théologie. Le mot « crise » revient 7 fois dans la bouche du cardinal Joseph Ratzinger pour sa conférence. Les difficultés actuelles de la catéchèse, dit-il, sont un lieu commun qu'il n'est pas besoin de prouver dans le détail. Les causes de la crise et ses conséquences ont été souvent et abondamment décrites. Nous n'analyserons pas d'une manière exhaustive toutes les causes de la crise de la catéchèse. Nous nous contenterons de commenter ce qu'a dit le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et qui est toujours d'actualité. Ses paroles aux prêtres du jeudi 10 juin 2010 à Rome l'ont prouvé. La crise de la catéchèse. Le cardinal Joseph Ratzinger a très clairement constaté le bouleversement de la catéchèse des dernières 20 ou 30 années. Il a ainsi caractérisé ce bouleversement. Une nouvelle immédiateté avec les sources écrites de la foi, avec la Bible. Si, auparavant, la Bible n'entrait pas dans l'enseignement de la foi, que sous l'aspect d'une doctrine d'Église, maintenant, on essaie d'accéder au christianisme par un dialogue direct entre l'expérience actuelle et la parole biblique. Que signifie ce dialogue direct dans la bouche du cardinal Ratzinger? Tout simplement ceci. Lire la Bible sans intermédiaire et sans être obligé de passer par le magistère et la tradition. Ce dialogue direct peut ressembler beaucoup au sola scriptura de Luther, et je rappelle ce que veut dire sola scriptura, l'écriture seule. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Le dogme du péché originel. L'enseignement catéchétique classique se fondait sur l'enseignement dogmatique du Concile de Trente. Le dialogue direct avec l'écriture consisterait alors à faire lire aux enfants le soi-disant poème des origines. Chacun découvrirait dans ce texte soi-disant paradigmatique ce que Dieu lui dit pour sa vie. Mais les enfants ne seraient plus enseignés sur les conséquences désastreuses du péché originel, la perte de la grâce sanctifiante, la triple concupiscence et la mort. Prenons un autre exemple, le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. Si les enfants ne s'en tiennent qu'au texte évangélique et non plus à la tradition et au magistère, pourront-ils comprendre que Jésus a institué le sacrement de mariage et le sacrement de l'ordre pour produire une grâce sacramentelle spécifique, et pour le sacrement de mariage, grâce qui permet aux nouveaux époux de vivre en vérité leurs deux en un, et pour le sacrement de l'ordre, grâce qui permet aux prêtres d'agir in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ. Le dialogue direct entre le groupe des catéchisés et la Bible ne permet pas la vraie transmission de la foi dans l'esprit de l'Église. Le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum dont on vous a déjà parlé, a intrinsèquement lié l'écriture, la tradition et le magistère. Le cardinal Joseph Ratzinger n'ignorait pas les bonnes intentions de ceux qui ont pensé la nouvelle catéchèse. Revenir à une certaine fraîcheur des origines du christianisme, utiliser un langage plus biblique, un langage moins philosophique, moins théologique, en un mot, adopter un langage plus humain. Mais ces bonnes intentions ne peuvent pas justifier l'infidélité qu'a été l'abandon du dogme. Même si celui-ci n'était généralement pas nié, disait le cardinal Ratzinger, il n'était plus important pour le contenu et la structure de la catéchèse. La situation s'est-elle améliorée depuis la conférence du cardinal Ratzinger en 1983 ? Au niveau de l'Église universelle, nous pouvons dire oui, grâce à la promulgation du catéchisme de l'Église catholique. Mais chez nous, interrogeons les enfants, interrogeons les adolescents qui se préparent à la profession de foi ou à la confirmation. Nous verrons s'ils connaissent les grands dogmes des mystères chrétiens. Le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a utilisé une expression très parlante pour parler de la crise, l'emprisonnement dans l'étroit de nos propres expériences. Le dialogue direct entre notre expérience et l'Écriture sainte n'est-il pas responsable de cet emprisonnement? La crise de l'exégèse et la question des sources. Pour mieux comprendre la pensée du cardinal Joseph Ratzinger, il est important de parler des origines de la crise de l'exégèse rationaliste dans le protestantisme libéral allemand. Cette crise concernait d'abord l'historicité des évangiles. À la fin du XVIIIe siècle, la tradition unanime dans l'Église, et quelle est cette tradition unanime? Les auteurs des évangiles sont les apôtres Matthieu et Jean, et Marc et Luc, amis et interprètes fidèles de Pierre et de Paul. Cette tradition unanime dans l'Église était remise en cause par des exégètes du protestantisme libéral qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ces savants percevaient le problème des intellectuels rationalistes. Comment les évangiles peuvent-ils affirmer que l'homme Jésus est Dieu? C'était un scandale pour ces intellectuels rationalistes. Un homme est un homme, il ne peut pas être un dieu. Ces intellectuels rationalistes répondaient ainsi. l'affirmation de la divinité de Jésus est un mythe, puisque c'est évident pour eux, Jésus ne peut pas être Dieu. Les disciples de Jésus auraient alors réinterprété la figure de Jésus en copiant les mythes des grandes religions de l'humanité et en créant les mythes évangéliques pour fonder la supériorité de leur maître sur les autres fondateurs de religions. Les protestants libéraux ont donc commencé un travail de longue haleine, démythologiser les évangiles, puis démythologiser toute la Bible. Le surnaturel et le préternaturel étaient donc pour eux toujours dits mythiques, c'est-à-dire non historiques. Les graves conséquences de cette démythologisation de l'Évangile et de la Bible, le Christ de la foi que les Évangiles nous annoncent ne s'identifie plus au Jésus de l'histoire. Monsieur Gérard Soulages, qui était un ami de notre père fondateur, a convoqué à Strasbourg en 1971 les intellectuels européens préoccupés par la grave crise de la foi. Oscar Kuhlmann, théologien luthérien et grand ami de Paul VI, a répondu à l'appel de Gérard Soulages et a pleinement partagé sa conviction. Si l'on ne croit plus à l'historicité des évangiles, les fondements de la foi sont ébranlés. Notre foi, en effet, n'est pas fondée sur des mythes créés par les premières communautés chrétiennes, mais sur le témoignage des apôtres ou des hommes apostoliques, témoins oculaires de la vie publique de Jésus, de sa passion, de sa résurrection et de son ascension. La crise de l'exégèse et la question des sources est, nous en sommes bien conscients, bien difficile à comprendre pour tous les auditeurs de Radio Espérance. Mais ne vous découragez pas, prions l'Esprit-Saint par le cœur immaculé de Marie pour éclairer nos esprits et ouvrir nos cœurs. Nous comprendrons mieux alors cette grave crise que Benoît XVI aborde avec compétence et autorité dans son livre sur Jésus, dont il a écrit déjà 2 tomes, le 3e va bientôt sortir. Redisons-le encore. Séparer le Christ de la foi du Jésus de l'histoire est une grave infidélité à la tradition. Je vous cite le Concile Vatican II qui a affirmé avec autorité dans le texte dogmatique Dei Verbum au numéro 19. Les 4 évangiles dont l'Église affirme sans hésiter l'historicité transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, de manière à nous livrer sur Jésus toujours des choses vraies et sincères. Benoît XVI disait aux prêtres réunis à Rome le 10 juin 2010 « On exclut précisément la nouveauté de l'Évangile. On exclut l'irruption de Dieu, la vraie nouveauté qui est la joie de notre foi. Je peux dire que les hypothèses qui étaient les plus nouvelles, absolument scientifiques, absolument presque dogmatiques, ont vieilli entre-temps et n'ont plus de valeur. Beaucoup d'entre elles apparaissent presque ridicules, disait Benoît XVI. Il faut donc avoir le courage de résister à l'apparente scientificité, ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, mais penser réellement à partir de la grande foi de l'Église qui est présente en tout temps et nous ouvre l'accès à la vraie raison. Les 15 000 prêtres présents sur la place Saint-Pierre ont applaudi le Saint-Père, car ils ont souffert, comme beaucoup d'entre nous, de ces hypothèses à la mode qui nous étaient présentées comme des certitudes scientifiques. Combien nous devons remercier Dieu de nous avoir donné un tel et grand pape. Quelle joie pour les prêtres qui ont répondu à l'appel de Benoît XVI pour conclure avec lui l'année sacerdotale à Rome, de l'avoir entendu parler vrai et avec grand courage. Il tient la promesse de sa première grande homélie, il ne recule pas devant les loups. Mais notre joie s'accompagne encore de souffrances et de tristesse. Les paroles claires et énergiques de notre pape actuel ne sont pas entendues par tous les membres de l'Église catholique. Des hypothèses exégétiques et théologiques à l'apparente scientificité, selon les mots mêmes de Benoît XVI, sont encore et toujours présentées comme des certitudes et déforment beaucoup d'esprit. La démythologisation de la Bible, et je répète ce que l'on entend par démythologisation de la Bible, c'est-à-dire faire découvrir que tout ce qui est du surnaturel ou du préternaturel a été ajouté par la première communauté primitive et est un mythe. Eh bien, la démythologisation de la Bible a fait remettre en question beaucoup de dogmes. L'autre grave conséquence a été, beaucoup d'exégètes aujourd'hui disent ne pas savoir ce que Jésus a réellement dit. Prenons le discours sur la montagne en Saint Matthieu, chapitre 5 à 7. Le dogme exégétique actuel est que Jésus n'aurait de fait proclamé que 4 béatitudes. Les 4 autres seraient l'œuvre rédactionnelle de l'ultime rédacteur mathéen, qui ne serait pas, pour la mode exégétique du moment, l'apôtre Saint Matthieu. Cette hypothèse exégétique devrait paraître ridicule, selon le mot utilisé par Benoît XVI, parce que les saints qui se sont efforcés de vivre les 8 béatitudes n'auraient pas vécu selon l'enseignement de Jésus, mais selon l'œuvre rédactionnelle de l'ultime rédacteur mathéen. Il est urgent de réagir, il est urgent que se lèvent de nouveaux exégètes qui, à l'école de Benoît XVI, étudieront laborieusement les Écritures saintes sous le souffle de la tradition et la garde du magistère. Et nous pouvons encore ajouter, comme on peut dire nouvelle grave conséquence, que Benoît XVI, dans son livre sur Jésus, nous dit que pratiquement tous les exégètes aujourd'hui nous disent que les paroles de Jésus, les paroles de la consécration ne remontent pas à Jésus. Si Jésus n'a pas dit les paroles de la consécration, alors que vivons-nous dans le sacrement de l'Eucharistie? Continuons nos approfondissements. Les conséquences de la démythologisation du Nouveau Testament, dont a parlé le cardinal Joseph Ratzinger, se constatent hélas dans certaines homélies. Ainsi, il a pu être dit et entendu que Jésus n'a pas multiplié réellement les pains, qu'il n'a pas marché sur les eaux, qu'il n'a pas calmé la tempête, qu'il n'a pas chassé des démons, qu'il n'a pas ressuscité des morts, et même qu'il ne s'est pas ressuscité lui-même. Des exégètes à la mode ont affirmé que la résurrection du cadavre de Jésus n'avait aucune importance. Ce qui importait pour eux était la signification du mythe de la résurrection de Jésus. Il est vivant. Nous-mêmes, comme Jésus, nous serons vivants dès notre mort. Un petit développement sur la crise de l'exégèse dans l'Ancien Testament. Le prophétisme, dans le livre de Von Rad, qui a été un exégète très à la mode, Son livre permet de mieux comprendre les préjugés des exégètes vétérotestamentaires. L'inspiration divine n'est plus prise en compte. Von Rad ne fait que rechercher les causes humaines de l'évolution des idées, et son fondement est la raison humaine, et non pas l'inspiration divine. À partir de ces présupposés rationalistes, les livres des prophètes sont réinterprétés. On dira, le prophète Isaïe ne pouvait pas prophétiser des événements qui allaient se produire après sa mort. Il ne pouvait pas non plus développer des idées qui n'appartenaient pas à son temps. Et on fait de même pour tous les autres prophètes. En ce qui concerne le Pentateuque, toute la tradition est remise en question. Ceux qui pensent encore aujourd'hui que Moïse est l'auteur principal du Pentateuque sont tout simplement considérés comme de pauvres simplistes et des fondamentalistes. L'une des théories toujours à la mode, les premiers chapitres de la Genèse ne peuvent pas venir de Moïse, comme la tradition le disait unanimement, mais ils viennent de l'école des sages après le retour de l'exil. Posons cette question. Ces sages de la période post-exilique pouvaient-ils vraiment être plus inspirés que Moïse pour donner l'enseignement lumineux concernant la création de l'homme et de la femme et l'enseignement sur le péché originel? Si ces enseignements n'étaient pas inspirés par Dieu, mais étaient les fruits de l'évolution des idées, comment pourrait-il aujourd'hui être enseigné par le magistère de l'Église comme faisant partie de la révélation? Comment expliquer alors qu'un pape aussi intelligent et cultivé que Jean-Paul II ait consacré les audiences du mercredi de ses 5 premières années de pontificat à commenter ses premiers chapitres de la Genèse? Benoît XVI a demandé aux 15 000 prêtres rassemblés à Rome le 10 juin 2010 d'exercer l'esprit critique et de ne pas se laisser influencer par les modes. Cette demande du Saint-Père signifiait bien que la crise exégétique n'était pas encore surmontée. Comprenons en profondeur ce que voulait dire le cardinal Joseph Ratzinger dans sa conférence sur la transmission de la foi en 1983. La Bible ne peut pas être considérée comme un livre écrit seulement par différents auteurs humains. Elle a aussi Dieu pour auteur. Et c'est parce qu'elle a Dieu pour auteur que l'Église enseigne qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint. Refuser cette inspiration est une grave infidélité à la tradition, mais aussi au Concile Vatican II.